Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voici à étudier aujourd'hui et à méditer le péché capital de l'envie. Ce péché peut être confondu parfois avec l'orgueil et aussi la vaine gloire. Nous avions vu que l'orgueil était le fait de considérer que nous sommes possesseurs de biens supérieurs à la réalité. La superbe qui consiste à être persuadé de cet orgueil, et ensuite la vaine gloire qui est la manifestation de cette fausse élévation, de ces fautes, de cette fausse richesse, ces fausses richesses en nous. Et nous avions dit que l'orgueil était un péché tel qu'il pourrait être au-dessus des 7 péchés capitaux et qu'il laisserait la vaine gloire comme un des 7 péchés capitaux et que lui serait un péché principal, la source de tout péché puisque c'est celui de Lucifer. Or, avec ce péché capital de l'envie, eh bien, nous atteignons peut-être plus profondément encore la source de la malice. Puisque le livre de la Sagesse, dans son chapitre 2, verset 24, nous donne cette phrase si importante qui doit nous simplifier notre pensée, « C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. » Il faut donc, pour comprendre ce péché capital, à nouveau l'étudier chez Lucifer et ensuite chez l'homme. En effet, chez Lucifer, il y a une haine de Dieu par une volonté de manifester et d'affirmer une supériorité qui est vaine, puisque Dieu, lui, est parfait, il possède la plénitude de l'être, la plénitude de la vérité, la plénitude de la bonté. Et au lieu de se réjouir de cette plénitude de Dieu, Satan va la mettre en comparaison et va se persuader qu'il est aussi puissant, plus puissant encore que Dieu. Et cette certitude qu'il a de son excellence, son orgueil, a pour fruit l'envie. Et l'envie, c'est la tristesse de la bonté des biens de l'autre. C'est la définition même de ce péché, une tristesse. Satan, d'ailleurs, est d'autant plus triste qu'il est tellement intelligent qu'il sait que son orgueil est vain. Et donc, son désir d'être supérieur à Dieu, cette auto-persuasion arrive à ce péché d'envie. Il veut être supérieur à Dieu, il ne l'obtient pas et il tombe dans la tristesse. Cette tristesse est un moteur extraordinaire qui lui permet de se maintenir dans un combat contre Dieu. Nous verrons pour l'homme à quel point ce combat contre Dieu et contre le prochain est une source de péché, une tête, un péché capital qui est un des plus redoutables par rapport à la colère, au tempérament de colère ou même à la sensualité. Il y a un véritable péché premier dans cette envie. Alors, pour simplifier, il nous faut prendre la somme de saint Thomas d'Aquin, secunda secundae, c'est-à-dire la deuxième partie de la deuxième grande partie sur les vertus morales, et nous poser la question des filles de l'envie, de cette tristesse. En effet, lorsque Lucifer prend conscience de son être, de la beauté et de la perfection angélique de son être, il est comme tous les anges. Il admire. Nous-mêmes, lorsque nous réfléchissons sur la nature humaine et sur ses qualités et sur ses beautés, nous sommes normalement dans la contemplation. Lorsque des âmes se plaisent à regarder les fleurs, les papillons, les insectes, le vivant, le manteau de Dieu, cette création qui est le reflet de l'intelligence et de la fantaisie de Dieu, eh bien, normalement, il y a une possession d'un bien intermédiaire qui est la beauté de la création. Et donc, Lucifer, lui, est d'abord saisi par sa beauté et la beauté des autres gens, des autres anges, par leur nature pleine d'intelligence et d'une volonté fine et belle. Donc Lucifer et tous les anges sont créés en état de grâce. C'est donc dans une sorte de délire, mais conscient, qui ne va pas jusqu'à l'inconscience, alors il n'y aurait pas de péché, que Lucifer va monter jusqu'au trône de Dieu pour se dire qu'il peut dépasser Dieu. Alors cela commence, comme nous dit saint Thomas, par une comparaison qui devient amertume, car le bien infini de la vie divine devient une ombre sur le bonheur de Lucifer, alors que lui est l'un des fleuves qui vient de cette source divine. Il devrait être tellement heureux de recevoir cette eau, de recevoir cette grâce, et il devient jaloux. La jalousie, c'est cette comparaison et cette peur de perdre ce qu'on a par rapport à un autre. Et on la confond, et elle se confond facilement avec cette envie qui est une vraie tristesse. Parce que l'autre est bien supérieur, parce que l'autre a des biens qui nous humilient par différence. Alors, il commence, comme dit saint Thomas, par chuchoter. Il commence par grommeler, il commence par dire aux autres anges, ne voyez-vous pas que nous serions des dieux, comme il le dira à Adam et Ève, si nous choisissons de nous-mêmes si nous avons ce pouvoir de déterminer le bien et le mal, nous serons comme Dieu. Si nous avons ce pouvoir, nous serons comme Dieu. Et il va instiller chez les autres ce soupçon, et il va dire que Dieu ment. Dieu nous dit, si vous vous coupez de moi, vous mourrez de mort. Eh bien, Lucifer, lui, dit aux autres anges, il ne nous arrivera rien si nous nous révoltons contre Dieu, bien au contraire, nous aurons la même puissance que Dieu. Il chuchote, comme dit saint Thomas, secrètement. Et ensuite, il se révolte ouvertement. Non serviam, je ne servirai pas. Et voyez que l'orgueil arrive à cette agressivité, à la diffamation ouverte après la calomnie secrète. Et c'est ainsi d'ailleurs que les hommes agissent. Lorsqu'ils sont dans cette envie, ils vont diffamer, ils vont attaquer d'abord de proche en proche la réputation de la personne enviée. Et ici, c'est Dieu. Et pour terminer avec Lucifer, pour continuer avec Lucifer, ce murmure, cette parole de plus en plus agressive arrive à une auto-persuasion, à une persuasion des autres. Et voilà qu'un tiers des anges vont le suivre. Ils vont devenir des démons. Ils font entrer dans cette tristesse et cette envie d'avoir la puissance divine sans Dieu. D'avoir cette puissance alors même que Dieu lui-même n'est absolument pas, au sens péjoratif du terme, jaloux de sa puissance, de son être parfait. Au contraire, il le diffuse. Bonum diffusivum sui. Le bien est diffusif de soi. Lorsqu'on est bon, on veut rendre les autres heureux. Et Dieu n'a pas à être envié, car il ne garde pas pour lui ses grâces. Il ne garde pas pour lui son bonheur. Il le donne. Comment peut-on être envieux de celui qui est supérieur à nous, mais qui vient à nous et qui nous aime? Oui, cette incarnation, cette présentation de son Fils, du premier-né, adorez-le. Lorsqu'il a fait entrer son premier-né dans le monde, il a demandé aux anges, adorez-le. Oui, il est sa parole éternelle, son Verbe, qui s'unit à sa création. Et Lucifer refuse cette incarnation. Non serviam, Michael, dit Saint Michel, mais qui est comme Dieu? Pour qui te prends-tu? Quis ut Deus? Gabriel, aujourd'hui, dans sa fête du 24 mars, l'homme, Dieu. Oui, Gabriel aurait répondu dans la belle tradition hébraïque à l'opposition première de Saint Michel. Et voilà que Lucifer entre dans cette guerre. Saint Thomas d'Aquin nous dit que, après le chuchotement malveillant et après la révolte ouverte, l'envie va jusqu'à vouloir amenuiser, diminuer le bien de l'autre, la gloire de l'autre. Et si l'on est réussi, on jubile. Et si on échoue, on est déçu. Or, Satan, qu'est-ce qu'il jubile lorsqu'il obtient que des âmes s'écartent de Dieu? Lorsqu'il a été, comme il a été heureux, comme dit la tradition, qu'un tiers des anges l'ait suivi. Tolkien, dans ses romans, s'inspirait de cette tradition avec le Silmarillion et le début de son épopée en indiquant une sorte de grand concert où le premier violon se révolte contre le chef d'orchestre et emmène avec lui un tiers des violons. Cette chute, qui est aussi évoquée dans l'Apocalypse, où la queue du dragon emporte un tiers des étoiles du ciel, eh bien, fait jubiler d'une manière sordide le démon. Et il se réjouit et il ricane lorsqu'il arrache une âme à l'amour de Dieu, à la gloire de Dieu, et qu'il fait tomber à terre le sang de Jésus. Et il enrage lorsqu'il échoue, et sa déception et sa tristesse de son envie s'unissent pour faire de Lucifer un être profondément triste. C'est la raison pour laquelle nous devons bien comprendre ce qu'est la véritable tristesse et la véritable crainte. Car pour terminer sur les esprits, l'envie se termine par une haine inimaginable. Après avoir été dans l'opposition, après avoir été dans la contestation ouverte, après avoir été dans la bataille et le désir d'arracher des âmes et de salir la gloire et la beauté de Dieu, de le calomnier, de lui cracher dessus, de le frapper, de le crucifier. Il est profondément déçu et amer de son échec, car Dieu lui arrachera des âmes, Dieu manifestera sa puissance, et Satan ne pourra pas damner autant d'âmes qu'il le veut, autant d'âmes qui librement, malheureusement, le suivront. Et la volonté de Dieu, c'est que dans sa grâce et dans la liberté qu'il a donnée à ses enfants, eh bien, se manifeste sa puissance et sa miséricorde. Alors, cette haine du démon, elle est extraordinaire, persévérante, et il poursuivra le Christ, il poursuivra la Vierge Marie, il poursuivra ses enfants jusqu'au bout, jusqu'au règne de l'Antéchrist, où il voudra triompher d'une manière délirante en faisant reconstruire le temple à Jérusalem, selon l'opinion de théologiens, et en y faisant acclamer l'Antéchrist comme le Messie, pour effacer en quelque sorte de l'histoire humaine Jésus. Mais il échouera, et ce qu'il fera durera peu de temps. Cependant, le Seigneur nous dit bien que si ces jours n'étaient pas abrégés, même ceux qui sont connus de Dieu pour être dans la grâce et se sauver et se convertir et sortir de leurs péchés, eh bien, seraient en danger de se perdre et de désespérer devant la violence des tentations, devant l'ombre portée sur le corps du Christ, l'ombre portée sur le corps mystique du Christ, l'ombre portée sur l'Église. Et le cardinal Sarah, ce saint homme, dans ce triptyque, dans ce troisième livre qu'il nous donne, exprime son désir de réveiller l'espérance chez les baptisés et l'esprit d'évangélisation pour qu'ils puissent à nouveau avoir la fierté de dire leur foi en l'incarnation malgré les péchés, malgré une Église qui semble défigurée alors qu'elle est toujours belle. En effet, lorsque Luther s'est scandalisé des péchés qu'il voyait de son temps, il a mis sur l'Église les péchés des baptisés et des hommes d'Église, alors que l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement du Verbe. Et cette jalousie de cette finesse et de cette beauté et de cette vérité de l'enseignement de l'Église, de la vraie religion, ou la religion de l'incarnation, de Dieu qui s'est fait homme, du Dieu qui aime ses enfants et qui donne son Fils unique, tout cela est ou un scandale, parce qu'un Dieu si puissant ne peut pas s'abaisser, ou un objet d'envie, de tristesse et finalement de haine contre l'Église catholique. Un déchaînement que nous voyons qui a sa source dans une envie profonde. Envie, c'est-à-dire la tristesse de l'excellence de l'autre, des biens de l'autre, et qui est la bonté et la beauté divine. Alors, en comparaison, pour l'homme, qu'est-ce que nous pourrions retirer ? Quelle comparaison pourrions-nous prendre pour nos propres péchés, pour ce carême ? Tout d'abord, j'espère que nous n'avons pas une envie démoniaque. C'est-à-dire que nous sommes là à regarder les autres et à les voir comme des adversaires, comme des personnes qui font porter une ombre sur votre propre vie, sur votre petit bonheur, sur votre stabilité, avec un esprit permanent de comparaison. La source est toujours l'orgueil, c'est-à-dire que vous vous estimez vraiment excellent, que vous estimez au moins meilleur que les autres, et vous commencez par cette comparaison, comme un effet de cette cause, par cet esprit de jugement et de critique, à vous comparer aux autres, au point d'être vexé, parce qu'ils sont plus heureux que vous, parce qu'ils ont plus de biens que vous. Ça peut être des biens matériels, et en effet, la première des envies, semble-t-il, c'est par rapport à l'argent, aux richesses, mais aussi par rapport à la santé. Il y a des personnes qui sont envieuses de la bonne santé des autres. Mais quelle impasse ! Mon Dieu, Seigneur, comment peut-on arriver à être triste de ce que les autres peuvent avoir de manière aussi simple que la santé ? Ou même la beauté. Des personnes qui ont une beauté naturelle selon les canons de leur pays, parce que de pays à pays, la beauté est parfois tout à fait subjective. Eh bien, les pauvres sont souvent enviés. En termes précis, ils ne sont pas jalousés, parce que celui qui est moins beau n'a pas peur de perdre sa beauté inférieure. Non, il envie la beauté de l'autre, car il estime que cette beauté plus resplendissante est un mal pour lui, est une ombre portée. Il n'a pas peur que celui qui est plus beau lui ravisse sa beauté inférieure, mais il a peur que celui qui est plus beau lui fasse tellement d'ombre que personne ne le regarde et qu'il soit oublié et qu'en effet, il ne puisse pas lui-même resplendir. Lorsque les enfants font des châteaux de sable, si l'un des enfants fait un magnifique château de sable en ayant pris plus de temps, plus de soins, c'est un exemple extraordinaire de la psychologie humaine et d'un péché qu'on trouve chez l'enfant, de casser le château de sable de l'autre. Parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est mieux fait. C'est extraordinaire de voir l'envie chez un enfant lorsqu'il casse le château de sable de l'autre. Eh bien, chez l'être humain, ce syndrome, en quelque sorte, du château de sable, il est bien présent. Et on peut toujours se moquer d'un enfant qui casse le château de sable de l'autre. Mais nous-mêmes, lorsque nous sommes envieux, on chuchote, on calomnie, on diffame publiquement. Ensuite, on se réjouit des échecs, des épreuves de l'autre. Et on enrage de le voir prospérer et on finit par le haïr. Et tout cela pour qu'il tombe, pour que son château s'écroule, pour que sa beauté, ses réalisations, ses biens soient perdus. Et c'est une haine gratuite, c'est une haine diabolique. Et cette haine et cette envie est la source de la discorde et de la querelle. Parce que cette discorde et cette querelle, mais elles se fondent dans cette haine qui elle-même est la fille de l'envie. Alors posons-nous la question. Lorsque nous nous querellons, lorsque nous nous disputons pour un sujet, pour une injustice, est-ce que nous sommes dans la vérité ? Est-ce que nous voulons redresser les torts ? Est-ce que notre indignation est légitime? Ou alors, est-ce que nous sommes au contraire dans la mauvaise foi, dans l'envie, dans la haine et dans la jalousie au sens large du terme, parce que l'autre est un danger pour notre propre bien, pour notre propre renommée, pour notre propre gloire, pour notre propre prospérité, pour notre propre beauté. Et là, nous nous trouvons véritablement dans un des cœurs du péché de l'homme. Pourquoi sommes-nous fâchés? Pourquoi sommes-nous séparés de tel ou tel membre de notre famille? Pourquoi sommes-nous fâchés avec des anciens amis, de vieux amis, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, et tout d'un coup, pour une querelle, nous ne nous parlons plus? Et c'est dur pour l'être humain, c'est dur pour notre orgueil de reconnaître que nous manquons de vérité, d'objectivité et d'humilité pour une réconciliation. Et c'est bien là qu'il y a un ressort profond à la haine et à la dispute, c'est pourquoi. Souvenons-nous de cet exemple. Et moi qui ai un père corse, je ne peux pas ne pas y penser. Vous avez, imaginons, en Corse, comme je suis, Guelfucci, petit Guelf, Velf, Wolf, peut-être, étymologiquement, un loup. Eh bien, moi qui suis corse, je peux user de cette histoire, de bonne histoire, qu'on invente ou qu'on complète par mille détails. Voici deux terrains, deux familles. Les uns s'insultent, les autres s'insultent régulièrement de chaque côté de la haie qui sépare ces deux terres, disons avec des châtaigniers de part et d'autre. Est-ce que la borne a été bougée? Alors ce serait un sujet de querelle particulier. Mais en fait, la séparation de ces deux terrains à 200 ans. Et aucune contestation n'est présente au cadastre. Alors, quelqu'un qui vient à passer demande « Mais pourquoi vous vous insultez ?»« Mais je ne sais plus. Mais je sais que mon père insultait son père et que mon grand-père insultait son grand-père. Et donc, je continue. » On ne sait plus pourquoi. On est dans cette discorde, on est dans cette haine. Et alors, cette vacuité du péché se manifeste, parce qu'à un moment donné, il arrive qu'on ne sait même plus pourquoi on est dans la haine, pourquoi on est triste. Parce qu'il faut remonter encore à la définition des mots. L'envie. Le livre de la sagesse nous dit « C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. » Lucifer, lui, sait pourquoi il déteste Dieu. Il se souvient, et cela est toujours devant lui, il voit la perfection de Dieu. Il voit la bonté de Dieu, il voit les grâces de Dieu, il voit les saints, il voit les saintes. Et il se souvient toujours qu'il le déteste, parce que cette bonté le dégoûte. Cette bonté, cette bienveillance dégoulinante de Dieu l'exaspère au dernier point. Lui voulait avoir la puissance qu'il revendique devant le Christ lui-même dans les tentations au désert. Voici tous les royaumes de la terre. Ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Si tu m'adores, ils seront à toi. Et le Christ de répondre, on n'adore que Dieu. Va, retire-toi, Satan. Et ainsi, Satan, depuis l'origine, est fasciné par cette nature humaine qui est dans la grâce, qui est appelée au salut, et il veut sa souffrance. Il veut que cette nature humaine partage son orgueil, sa déception et sa tristesse. Il veut l'attirer vers lui. Et cette amitié malsaine, c'est l'amitié des truands. C'est l'amitié des malicieux. Il est vrai qu'ils ne s'aiment pas les uns les autres, les bandits, ceux qui forment une bande et qui s'entraident les uns les autres, qui se tiennent les coudes pour faire le mal. Et pourtant, malgré cette fausse amitié, cette fausse collaboration, il y a un point commun chez eux, la haine du juste, la haine de Dieu. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est comme péché capital, lorsque l'envie va fédérer des personnes. Ce n'est plus seulement votre péché et mon péché contre lequel je dois lutter pendant ce carême. C'est un péché collectif. C'est le fait de ne pas vouloir reconnaître ses torts et d'accuser l'autre, de le diffamer, de le calomnier, de l'humilier. Comment des hommes, des femmes peuvent se réunir pour à ce point détester l'Église catholique, pour à ce point sans arrêt l'attaquer et ne trouver de mal sur cette terre, de défauts et d'excès uniquement chez les catholiques? Vous êtes-vous posé la question de tous ces films, de tous ces reportages, de toutes ces affirmations qui ne visent non pas le christianisme, mais le catholicisme? Et là, on trouve une envie diabolique. Alors, je tombe dans l'image d'Épinal, mais j'en suis un peu fier. Oui, ce désir d'éteindre, de faire mourir, non pas seulement les petites âmes, non pas seulement les enfants, en les salissant dès leur plus jeune âge, mais la communauté elle-même des chrétiens, la communauté des baptisés, le corps du Christ. Il y a une telle haine de Dieu, il y a une telle haine de Jésus, que cette haine se diffuse bien sûr sur tous ses enfants. Et elle est originelle. Elle est contre Ève et contre Adam. Alors, comment cette envie du diable qui a apporté la maladie, la mort et le péché dans le monde a-t-elle été vaincue? Eh bien, par l'aboutissement de ce carême. Le Christ, lui, n'a pas retenu sa divinité. Il n'a pas retenu sa gloire et sa puissance. Il l'a montré avec ses anges qui ont été présents à sa naissance. Il l'a montré en révélant à Joseph de prendre Marie, son épouse, qui a enfanté alors qu'elle était vierge. Ces miracles extraordinaires qui nous bouleversent si on les contemplait face à face, comme demain dans l'Annonciation, qui dépassent l'ordre naturel, qui nous font toucher du doigt la présence de Dieu quand une Vierge enfante, eh bien, la réponse de Dieu, c'est 30 années dans un village. Et cela a fait enrager Lucifer, fait enrager ceux qui voudraient le pouvoir, les plaisirs sans limite, sans mariage, sans enfants. Et voilà que cette Église catholique persiste dans l'affirmation de la vérité, de la pureté, du mariage, de l'enfantement, malgré les péchés de ses membres, malgré les chutes de ses membres, elle resplendit de cette vérité et elle provoque une envie, une terrible envie, parce que il est insupportable aux pécheurs d'entendre la vérité, car ils devraient reconnaître ses torts, ils devraient reconnaître qu'il manque de bonté, qu'il manque de richesse, qu'il manque de grâce, alors qu'il pourrait les acquérir et que ces mêmes grâces lui sont présentées dans la conversion. Quel est ce combat qui est le nôtre lorsque nous devons nous confesser? Nous sommes opposés à reconnaître nos torts car nous estimons que nous n'en avons pas besoin. Ou alors, par scrupule et fausse modestie, nous estimons être perdus et qu'il n'est plus nécessaire de se confesser ou de se relever parce qu'on est dans la boue et que c'est fini, on ne peut plus se relever. Mais l'une et l'autre attitude est pleine d'orgueil. Ne pas reconnaître ses torts et estimer qu'on n'a aucun défaut, ou alors se fixer sur ses échecs et ne pas se relever par la grâce de Jésus, le Verbe du Père, celui qui est venu jusqu'à nous, celui qui est né dans une étable, lui qui est le roi des rois et qui a été déposé dans une mangeoire, là où il y a du foin, là où il y a ces animaux sont présents avec toute cette humilité, avec Saint Joseph qui essaye d'aménager cette étable alors qu'elle est indigne du Fils de Dieu, qu'elle est indigne du Messie. Mais c'est Dieu qui le veut et il accepte cette volonté divine. Il ne se révolte pas. La Vierge Marie ne se révolte pas. Elle accompagne cette humilité divine qui se manifeste et qui manifeste une puissance extraordinaire. Car celui qui s'abaisse peut se relever. 30 ans, Cana, l'époux qui est manifesté et qui se manifeste son mariage, les noces de l'agneau, avec Jean-Baptiste qui l'avait appelé ainsi. Voici l'agneau de Dieu. Je suis l'ami de l'époux et quand j'entends la voix de l'époux, je me réjouis. Il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Lui qui était un grand prophète, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament et qui est tellement heureux qu'il se dit indigne de défaire la courroie de la sandale du Christ, alors que justement ce Saint Jean-Baptiste est maintenant dans la gloire et dans la joie parce que le Messie est venu, qu'il a été baptisé dans les eaux de la mort pour détruire la mort. Où est ton aiguillon, ô mort? Le démon est vaincu, la mort d'Adam et Ève est vaincue, le nouvel Adam et la nouvelle Ève vont dans la nuit de Pâques, nous porter la lumière de cette victoire sur le péché, sur l'orgueil, sur l'envie, sur la haine et sur la querelle. Et voilà manifestée notre espérance et la joie qui doit habiter dans nos cœurs lorsque, en plein carême, nous l'anticiperons par le dimanche de la joie, que la cause de notre joie, la Vierge Marie, que la terreur des démons, Saint Joseph, que nos saints anges gardiens puissent nous accompagner encore dans ce carême pour faire une sainte et bonne confession, pour recevoir notre Seigneur dans la Sainte Hostie, lui qui a voulu rester auprès de nous, celui qui, comme dit le cardinal Sarah, et supplier pour rester. La nuit vient, le soir arrive, reste auprès de nous, disent les disciples d'Emmaüs, Jésus rompt le pain et redonne l'espoir à ses deux disciples qui croient en la résurrection, qui retournent à Jérusalem. Nous avons vu le Christ, et les apôtres disent « Oui, Simon l'a vu ». Ces apôtres qui n'avaient pas cru les saintes femmes, et nous qui sommes si incrédules à croire en l'incarnation, en la rédemption, en la résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.